Vous écoutez RTL.
Sidonie Thomas pour la curiosité, c'est parti.
C'est parti, aujourd'hui Stéphane, on vous révèle les secrets d'une chirurgienne plastique. Liposuccion, liftique, nouvelle poitrine en 25 ans de carrière, elle a tout vu, mais pas tout opéré, vous verrez.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Rattus norvegicus, le rat d'égout.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On l'appelle aussi surmulot. Longueur du corps 25 cm, plus une queue de 20 cm.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Bonjour, c'est les curieux, bienvenue, c'est lundi, on est en forme et on a mille histoires à vous raconter. Vous allez bien, Thomas ?
Ça va très bien, Sidonie, on est curieux de tout, vous le savez. Science, histoire, musique, grand destin, aventure et nature. On rigole parce que Sidonie était en train de boire un peu d'eau et elle a failli rater le début de l'émission.
Je bois jamais au bon moment, j'ai toute la journée pour boire de l'eau. Je choisis la seconde de la mise en onde de Sébastien Duduit.
C'est pas faux alors. Donc aventure et nature aussi dans l'émission.
Oui, et puis cette nature parfois nous surprend, elle nous inquiète. Vous avez peut-être vu cette vidéo d'un éboueur parisien qui nous montre une benne à ordures pleine de rats qui ont l'air de monter, de grimper, comme s'ils voulaient nous dévorer. Et cette question forcément que l'on se pose, les rats sont-ils en train de nous envahir ? Bonjour Marc Giraud.
Bonjour,
bonjour.
Je vais vous rassurer tout de suite. On va plaider la cause du rat, qui est un animal passionnant et vraiment intéressant.
Oh, mais ça c'est parce que vous êtes naturaliste, vous aimez tous les animaux, vous les défendez tout le temps.
Sinon tout le monde les attaquerait.
Est-ce que les rats sont en train de nous envahir ? Est-ce qu'ils pullulent selon l'expression consacrée ?
Ah non. Doublement non. D'abord, ils ne peuvent pas pulluler parce que ça dépend de la nourriture. Quand il n'y a pas de nourriture, les rats sont plus fertiles, elles ne se reproduisent plus. Donc, les rats baissent. Et en plus, si on les a vus, c'était à cause des inondations qui les ont sortis de sous terre. Donc, on les a mieux vus. Mais en fait, il y en a moins. Il y en a plein qui sont noyés. Donc, c'est exactement le contraire.
Il y a combien de rats par habitant à peu près en France ?
Alors, on dit entre 1 et 2 par habitant dans les villes. Parce que le surmulot dont on parle aujourd'hui, c'est le rat des villes. Le rat noir qui a donné la peste il y a longtemps, il a été chassé par celui-ci.
Mais il y a quoi dans les campagnes s'il n'y a pas de surmulot ?
Alors il y a des rats noirs. Ah, Rattus, oui. Rattus, ça c'est l'autre.
Oui.
Alors on va vous poser toutes les questions de base. Est-ce que les rats sont plus nombreux en ville qu'à la campagne ?
Alors, plutôt plus nombreux en ville parce qu'on leur offre le gîte, le couvert, le chauffage, tout ce qu'il faut. C'est du 5 étoiles une ville pour un rat. Les égouts, c'est magnifique. Parce que les rats surmulots, ils aiment l'eau. Donc ils ont tout ce qu'il faut.
Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils se baignent dans l'eau ?
Ils nagent facilement, ils sont très habiles. Et puis ils mangent tous nos déchets parce qu'ils sont omnivores, ils ont les mêmes goûts que nous. Donc nos déchets alimentaires, ils se régalent vraiment. Donc c'est dans les villes que c'est intéressant pour eux.
Et dans les villes, ils vivent essentiellement dans les égouts ou ils ont plusieurs sites, plusieurs lieux d'habitation en ville ?
Ils sortent de temps en temps. Moi j'en ai vu en plein jour sous la Tour Eiffel. Ils sortent de temps en temps, mais ils n'aiment pas la lumière. Ils sont nocturnes, ils sont lucifuges, on dit, ils fuient la lumière.
Lucifuges.
C'est le contraire de nous. Vous savez, nous en ce moment, heureusement, c'est les premier rayon de soleil, mais quand on manque de soleil, on a ce qu'on appelle le TAS, c'est le trouble affectif saisonnier, et on a besoin de luminothérapie, on a besoin de lumière. Le rat, c'est contraire, le soleil le fait flipper, il n'aime pas la lumière, donc il se sent bien dans le noir, dans le mauvais temps.
Alors vous nous avez dit que les rats ne pullulaient pas et qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète, ils n'ont pas pris le pouvoir ni à Paris, ni en France, ni dans le monde, mais à quelle fréquence ils se reproduisent et combien de bébés une maman rat peut-elle avoir chaque année ?
Alors c'est beaucoup, elle est mûre très tôt, à 3 mois, donc elle peut avoir 7 portées par an de 8 à 10 petits, donc ça va très très vite. Donc vous avez donné un chiffre tout à l'heure, ça fait à peu près 1500 à 2000 ratons par an, mais attention, en théorie, ça veut dire que s'il n'y avait pas de maladie, s'il n'y avait pas de mort, il y a énormément de mortalité chez les petits rats, et c'est impossible que ça se fasse comme ça.
Oui, parce que le chiffre que je donnais, qui était autour de 250 000 par vie de rat, c'est théorique en fait.
C'est au mieux de la forme de la rat, quoi. Mais
c'est pareil pour toutes les espèces, pour les mouches, si vous les laissiez proliférer, au bout d'un an, il y aurait une épaisseur d'un mètre, pardon, sur toute la surface de la Terre, de mouches. Donc ça n'arrive pas. Il y a beaucoup de mortalité, évidemment.
Ouais, alors samedi, je faisais un petit footing à Boulogne-Billancourt et je rentre vers chez moi et paf, un rat qui surgit juste devant moi. Il faisait, alors c'est dur parce qu'on le voit effectivement, il n'aime pas beaucoup la lumière, donc je pense qu'il allait retrouver un coin où se planquer.
Non, c'est vous qui lui avez fait peur.
Non, de ma démarche chaloupée. Je sais pas, il faisait peut-être une vingtaine de centimètres. C'est grand, c'est petit pour un rat ?
Non, c'est à peu près normal. C'est plus petit qu'un chat, un rat quand même, beaucoup plus petit. Mais ça peut tenir tête. Moi, j'en ai vu à Paris, un rat qui tenait tête à un chat et le chat rigolait pas quand même.
Mais c'est-à-dire qu'il c'est comme un duel ?
Oui, c'est ça, il grogne. On voit qu'il montre les dents, même si c'est pas un carnivore, il a quand même des bonnes dents. Et vous demandiez tout à l'heure si c'était dangereux, si ça nous saute à la gorge, non. Il faudrait vraiment l'acculer, comme tous les animaux. Hein.
Une faut vipère, le menacer, c'est pareil. Quoi, c'est ça?
Bah oui, ouais. Sinon, il n'y a aucune raison, il nous fuit. Hein.
Mais alors, on a quand même une peur des rats, qui, vous êtes en train de lutter contre ça, et c'est très bien, Marc Giraud, mais
j'ai du mal, hein.
C'est lié à quoi? C'est lié à des maladies qu'on peut attraper ou qu'on pouvait attraper?
Bah, ça vient de la peste, je pense, ouais. Qui a fait des ravages. Alors, c'est pas un ange non plus, le rat. Hein. Mais la peste, c'était le rat noir qui a presque disparu, donc. Et c'était dû à la puce du rat noir. Et le rat surmulot, le nôtre, le rat d'égout, il n'a pas les mêmes puces et ça ne transmet pas la peste. En revanche, ça transmet la leptospirose, qui est quand même une maladie dont il faut se méfier, bien sûr.
Donc il faut quand même faire attention. Il est arrivé, il a toujours été là, le rat, en Europe et en France, ou il est arrivé d'ailleurs sur la planète?
C'est asiatique, à la base. Ils sont venus par bateau ou par le commerce. Hein, ça a envahi la planète entière. Hein, même des îles quasiment antarctiques, il y a des rats dans toutes les îles. Ça fait des ravages un peu partout parce que la faune et la flore ne sont pas adaptées. Et le rat, ça mange un peu de tout.
Le rat qui mange un peu de tout et qui est très utile à nous, les humains, au quotidien. Vous allez découvrir pourquoi si vous restez avec nous sur RTL. Ce sera une très bonne idée, les curieux. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Les rats, une véritable société parallèle à la nôtre, investissent en silence la ville endormie pour mieux surprendre leur proie.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Prendre des risques pour défendre sa tribu, c'est valable également dans la société des rats. C'est le prix à payer pour être chef.
Curieuse ? Curieux ?
Chez les rats, la hiérarchie se met en place par l'intimidation plutôt que par de vrais combats.
Vous êtes chez vous, sur RTL.
Pourquoi vous devez changer d'avis sur les rats? Pourquoi les rats sont-ils nos amis? Voilà le thème de notre curiosité du jour avec notre naturaliste préféré, Marc Giraud. Vous nous l'avez dit, dans nos villes, les rats vivent principalement dans les égouts. Ils y trouvent de l'eau, de la nourriture, de la chaleur. Mais est-ce que ça nous sert à quelque chose? Est-ce qu'ils sont utiles avec leur activité, comme ça, dans les sous-sols, les entrailles de nos villes?
Déjà, ça les débouche, les égouts. Les grilles, tout ça, c'est comme les rats rongent. Un peu tout, ils laissent les grilles, les petites mailles des grilles, ils peuvent passer à travers, enfin ils mangent tout. Sans eux, les égouts seraient complètement bouchés.
Ça donnerait quoi? D'autres inondations? Ou alors les égouts ne feraient pas leur boulot?
Les égouts ne serviraient plus à rien, c'est-à-dire qu'on ne serait pas envahi par la Seine, on serait envahi par nos propres eaux sales, ça ne serait pas terrible. Mmh. Donc c'est les rats qui maintiennent ça, alors on les trouve dégoûtants, en plus c'est pas vrai parce qu'ils font leur toilette à longueur de temps.
Ah, c'est propre,
mais,
un rat?
Ben oui, c'est propre. Alors ça vit dans la saleté, mais c'est propre. Il y a plein de rats apprivoisés, hein. On pourra en parler peut-être tout à l'heure.
Tiens d'ailleurs, Marc Giraud, vous avez sans doute vu cette vidéo qui a fait vraiment le tour des réseaux sociaux. On voyait un rat qui avait, alors je sais pas si c'était un rat, mais qui avait de la mousse. Sur lui et qui donnait l'impression de se laver.
Oui.
Et alors évidemment, c'est tous dit on a fait de l'anthropomorphisme, c'est étonnant, il réussit à se laver. Sauf que c'était plus compliqué que ça. Il a dû subir quelque chose.
On lui a mis de la mousse et il a cherché à s'en débarrasser. Donc quand ça fait sa toilette, ça ressemble à la nôtre, donc ça fait rire.
Mais c'est de la maltraitance animale en fait, cette histoire-là.
Mais ça, alors dans les labos, on pourra en parler. On leur doit beaucoup aussi, les rats, par toutes les tortures qu'on leur impose à longueur de temps. Ils servent beaucoup et ce sont des animaux altruistes et solidaires. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle.
Pourquoi ils sont altruistes et solidaires? Ils sont altruistes et solidaires entre eux, c'est-à-dire qu'ils s'aident entre rats?
Mais absolument, ils se rendent service. Et par exemple, il y a plein d'expériences aussi. On fait presque noyer un rat et un autre doit le sauver. Donc, il le sauve. Mais même si on lui met du chocolat, ils sont comme moi, ils adorent le chocolat. Ils préfèrent sauver le copain d'abord et ensuite ils partagent le chocolat. Et il y a des humains qui ne feraient pas ça. Hein. Donc on dit toujours l'humain, et les animaux sont rien que des bêtes. Mais n'empêche que le rat fait des choses qui sont exemplaires.
C'est quoi son occupation favorite? Si je dis ronger, je suis pas loin de la vérité?
Il est obligé de ronger, parce que comme tous les rongeurs, ses dents poussent à longueur de temps.
Ah oui. Il pourrait avoir des dents de 50 cm s'il ne rongeait pas.
Oui, c'est ça. Ouais. Il pourrait même lui rentrer dans la mâchoire. Hein, parce que c'est la sélection naturelle qui fait que les rongeurs, comme ils rongent des choses très dures, du bois, des pierres genre calcaire, quand même, ils y arrivent. Ouais. Hein, donc ça s'use. Et pour pas qu'il n'ait plus de dents, les dents poussent à longueur de temps.
Et vous nous disiez que les rats adoraient manger comme nous, finalement. Est-ce qu'on peut dire qu'ils permettent le recyclage, les rats?
Ce sont des. Ce sont des recycleurs, des éboueurs. Hein. Ouais. On a calculé, par exemple, à Londres, que dans les années 80, il aurait fallu doubler le service de ramassage des ordures s'il n'y avait pas de rats. Donc, ils nous servent, mais dans le monde entier, en Inde, ils sont très, très, très utiles sur les tas d'ordures, par exemple.
Mais ça mange beaucoup de déchets, je ne sais pas, par jour, par an. Est-ce qu'on a pu comptabiliser ça, Marc Giraud ?
Oui, je crois que c'est 300 000 tonnes de déchets par an, quand même, à Paris, qui sont
Ah, mais ils nous piquent des jobs, en fait, les rats.
Ben, c'est des jobs paragoûtants, et personne peut-être voudrait les faire, parce que justement, nous, on attraperait des maladies là où ils vont.
Dans la mise en onde de Sébastien Dudouis, on entendait la notion de communauté, de vie en société des rats. Ce ne sont pas des solitaires, les rats ?
Ah non, 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 ils ne supportent pas la solitude. Pour les gens qui aiment les rats, qui en voudraient, il en faut au moins deux. Et ils ont une odeur familiale. Ils s'imprègnent les uns les autres d'une odeur familiale, qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils ont beaucoup plus de flair que de jus. Et si un rat a été exilé pendant plusieurs jours, par exemple, il perdrait l'odeur, il serait chassé par sa famille, parce qu'il ne le reconnaîtrait plus.
C'est sympa, élever un rat, vous parlez de gens qui adoptent des rats. Nous, un peu de loin, quand on n'en a pas, on se dit, oh, c'est un peu crade.
Alors moi, les animaux en captivité, c'est pas ma tasse de thé, ouais. Mais j'en ai eu dans ma famille, si je peux dire, des rats. Et c'est souvent les ados qui veulent choquer les parents, qui sont un peu gothiques, tout ça, ça fait hurler. Mais c'est très, très mignon, c'est très attachant. Les rats, on peut leur apprendre même des tours. Ils sont vraiment intelligents, ils sont affectueux, ils montent sur l'épaule, ils glissent sous la chemise. Enfin, ils sont... Voilà, c'est pour qui aime.
Pour qui aime les câlins sous les chemises.
D'un seul coup, ça gratte et ça chatouille. Bon, grâce à vous, Marc Giraud, on a déjà appris que les rats régulaient notre production de déchets, qu'ils empêchaient nos égouts de déborder parce qu'ils creusent le limon et ils permettent à l'eau de continuer de s'écouler. On va voir aussi que ce sont de bons enquêteurs. Surprise à venir sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On apprend à vivre avec les rats, à les connaître, à les côtoyer sans en avoir peur. Nous sommes en compagnie de notre naturaliste préféré, Marc Giraud. On découvre avec vous leurs talents et leur utilité. Vous nous avez expliqué qu'ils nous aidaient notamment à réguler nos égouts en dévorant nos déchets. Ils sont aussi très intelligents et solidaires. Ils s'aident s'ils ont le choix entre du chocolat et sauver un copain rat qui se noie. Ils vont sauver le copain.
Qui en ferait autant
et manger le chocolat après quand même.
C'est vrai. Et là, je découvre que 5 rats vont devenir de fin limier dans une équipe de police scientifique aux Pays-Bas. Là, je me suis dit, bon, c'est peut-être le Gorafi, ça doit être une intox, je vous la soumets.
Oui, oui, et en plus, ils s'appellent Dupont et Dupont, comme les
enquêteurs
Derrick,
de Tintin.
Magnum et Poirot. Donc c'est vraiment, ça fait gag. Mais bon, c'est des rats policiers. Quoi.
C'est quoi leur mission, précisément?
C'est le flair, parce que le rat voit mal, mais il a un flair extraordinaire. Il a 1500 gènes olfactifs, c'est-à-dire plus que le chien qui n'en a que 1100, et les humains c'est 650, hein. Donc ils voient, ils sentent deux fois mieux que nous, et peut-être 1000 fois plus qu'en perception et en finesse. Donc pour repérer des explosifs, de la drogue, du sang, des tas de choses, de l'argent même, des choses très très fines, ils sont remarquables.
Mais ça veut dire qu'ils vont intégrer vraiment l'équipe de police scientifique et ils vont être trimballés sur les scènes de crime un peu partout ?
Alors ils sont plus faciles à transporter que des chiens, plus faciles à nourrir, moins cher, etc.
Il n'y a pas de vétérinaire aussi, a priori.
Oui, ils sont costauds, mais le problème, c'est qu'ils...
Plus facile à dresser aussi.
Oui, très très facile.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, oui, absolument.
Parce que comme c'est un animal intelligent...
Ils sont intelligents, ils sont moins liés à l'homme quand même que les chiens, donc ils sont plus fiables, ils sont plus objectifs. Un chien berger allemand pourra regarder son maître et se faire influencer. Donc,
Qu'est-ce qu'il a envie
Il y en a qui sont plantés, absolument. Et le rat, a priori, ne se plantera pas, sauf que le rat est très timide, il n'aime pas être en terrain connu. Donc il serait plutôt utilisé dans les commissariats, on leur ferait renifler des vêtements, des choses comme ça, pour identification, mais les mettre là où ils ne sont pas habitués, ils ont du mal quand même.
Ça les perturbe. Ouais. Je disais, c'est un animal intelligent. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, qu'est-ce qui le prouve? On fait des tests? Comment on démontre ça, l'intelligence?
Alors, il y a des
observations.
Par exemple, sur les îles Crozet, qui sont presque en Antarctique, donc ça a envahi les îles, on a vu un rat, un éthologiste que je connais, a vu un rat. Il y a les albatros qui nichent là-bas. C'est quand même des oiseaux très très puissants, avec des becs comme des poignards, quoi. Ils font 3 mètres d'envergure, ça rigole pas. Mais un rat a creusé un tunnel jusque sous le nid de l'albatros, il est monté, il a gobé son œuf, il est reparti et l'oiseau continuait à couver comme si de rien n'était.
Autre exemple, Marc Giraud, de l'intelligence des rats, Par exemple, quand ils vont se nourrir et qu'ils ne sont pas très sûrs de leur pitance, qu'est-ce qu'ils font ?
Ils envoient des goûteurs. Parce que ça, c'est le mauvais côté des rats qui nous ressemblent aussi. Ils ont souvent des têtes de turc. Et quand il y a une nourriture qu'ils ne connaissent pas, ils envoient un goûteur et ils regardent s'ils se portent bien. Donc souvent, même, ils trempent la queue dans une bouteille, par exemple, ouais. et il fait goûter les autres. Et le goûteur, s'il est en bonne santé, tout le monde va s'y jeter. C'est pour ça qu'on ne peut pas leur mettre de poison rapide. Parce que si un rat s'empoisonne devant les autres ne toucheront pas au truc.
Donc la mort au rat, c'est long ?
Et oui, c'est pour ça que c'est très cruel. Ça les fait agoniser au bout d'un moment et lentement. Ça, c'est pas terrible.
Le goûteur, c'est un paria de la société. Est-ce que c'est un rat qui s'est retrouvé un petit peu sans famille ? Vous nous décriviez l'importance
de
l'odeur et de l'odorat pour se reconnaître d'une famille à l'autre. Donc,
il fait partie de la famille, mais c'est la tête de turc. Et ça existe chez les singes, chez d'autres. Et si on enlève la tête de turc par humanité en se disant ça va, ils vont plus l'embêter, il y en aura un autre qui va remplacer. Et c'est un rôle qui fait aussi un lien social. Les autres, voilà, c'est facile de se souder contre tous unis contre quelqu'un.
Mais c'est vrai que c'est fascinant. On voit le nombre d'études et de tests qu'il y a autour des rats, c'est quand même qu'ils fascinent. Et on les teste pas seulement pour voir si les médicaments sont nocifs pour l'humain ou pas. On a essayé, par exemple, de les faire fumer, les rats. Ça se passe comment ?
Oui. Alors ça fait partie des abominations qu'on leur impose, c'est-à-dire qu'on les met dans des cages hermétiques et on leur envoie de la fumée pour voir les faits. Sauf que les rats, ils ont une réponse intelligente. Ils ont bouché les conduits qui envoyaient la fumée avec leurs excréments. Donc ils ont clairement dit que la fumer, ça leur plaisait pas.
Et c'était pas bon pour eux.
Les rats sont aussi utiles en médecine. Vous allez découvrir pourquoi dans un instant sur RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Mieux vaut s'habituer à eux, car ils sont bien décidés à rester. Ce sont les rats.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ces rongeurs sont présents presque partout dans le monde. Ils envahissent nos maisons et peuplent nos cauchemars.
Attrapez-le ! Attrapez-le !
On est bien entre curieux.
Ben nous, la curiosité, on a attrapé un rat et puis on le regarde, on le trouve plutôt sympa, utile.
Il a rien compris, le monsieur, là, qui vient de causer.
Mais c'est pour vous titiller, Marc Giraud.
Attention, où il est.
Il faudra réécouter l'émission en podcast sur RTL.fr pour découvrir tous leurs talents à ces rats qui sont limite myopes, vous nous l'avez dit, mais qui ont un odorat absolument incroyable, ce qui fait que ça les lie aussi en famille, qu'ils sont solidaires et qu'ils se reconnaissent grâce à ce nez. Est-ce que ce nez et cette capacité à sentir permet aux rats de détecter certaines maladies, par exemple.
Et oui, on l'emploie aussi pour ça, et notamment la tuberculose.
Parce que ça a une odeur, la tuberculose ?
Oui, c'est un composé organique odorant qui est dégagé par Mycobacterium tuberculosis, pardon.
Celui-là.
On vous fait confiance.
On vous reprendra jamais.
Ah ouais, pas du français. Pas de souci. Et c'est justement à l'origine de la maladie. Et les rats les détectent beaucoup plus précisément que certains appareils qui ne sont pas toujours fiables. Et au microscope, ce n'est pas toujours évident à identifier. Donc, ils en ont déjà détecté 10 000 cas quand même. Donc, ça marche très bien. Ils peuvent, avec beaucoup de précision, détecter des échantillons, une centaine d'échantillons en moins de 20 minutes. Un laborantin, il lui faudrait 2 jours pour faire ça. Et c'est très fiable et très rapide.
Oui, alors notre invitée qui vient juste d'entrer
Isabelle
en
Sarfati.
Studio, Isabelle Sarfati, a quelque chose à ajouter.
Qui est chirurgienne esthétique, chirurgienne plastique.
Bonjour.
Bonjour.
Oui. Est-ce que les rats sont capables de sentir la tuberculose sur l'individu ?
Non, ce sont des échantillons de salive inactivée, mais peut-être que ça peut arriver. On sait aussi qu'il y a des chiens, par exemple,
qui sentent des mélanomes ou
des choses comme ça, absolument.
Sur l'individu.
Absolument. Mais on est au début de toutes ces découvertes, donc c'est absolument passionnant.
Ça va être fascinant.
Ça sera nos aides médicaux, sûrement.
Et d'ailleurs, on viendra peut-être nous parler du chien, un de ces quatre, Marc Giraud, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les liens entre l'humain et le canidé.
En attendant d'autres animaux de bord de chemin à découvrir avec vous, Les animaux en bord de chemin, c'est le livre que vous publiez chez Delachaux et Nestlé. À très bientôt, Marc Giraud.
À bientôt.
Merci, Marc.
Et avec plaisir.
Vous écoutez RTL.
Bonus, découvrez la nouvelle émission de RTL, Confidentiel, avec Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, on se retrouve et c'est un plaisir dans ce nouveau numéro de Confidentiel sur RTL. Une heure au cours de laquelle on va sinuer ensemble dans les méandres d'une vie, une trajectoire qui, comme toutes les trajectoires, n'est jamais une ligne droite. À l'image de celle que je vous propose aujourd'hui, la gloire et le malheur, la lumière et l'ombre d'un homme gigantesque, un monstre, comme il se surnomme lui-même, l'acteur aux 200 films, aux 1000 rôles et aux 1000 vies, dans les pas d'un géant et de ses secrets, Confidentiel Gérard Depardieu, c'est tout de suite, et c'est sur RTL.
RTL.
Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard.
Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu est né dans une maison où il n'a jamais vraiment habité, dont il s'est toujours enfui, mais qu'il n'a jamais quitté. Aujourd'hui encore, il lui arrive de rêver au numéro 39 de la rue du Maréchal Joffre, quartier de Lomelon à Châteauroux, où une petite porte en fer s'ouvre toujours sur un maigre jardinet, une façade grise et des souvenirs perdus. Gérard Depardieu a vu le jour ici le 27 décembre 1948. Et ses premiers pas, dans deux petites pièces étroites et sombres, ont décidé de sa destinée tout entière. Jamais une enfance aura à ce point dicté les gestes, les mots et les désirs d'un homme. La jeunesse de l'acteur, il le dit lui-même à qui veut l'entendre, fut formidable. Troisième enfant d'une famille qui en compte six, des pauvres de l'après-guerre, jamais un sou à la maison. Pas de misère noire, mais une existence de briques et de broc. René, le père, surnommé le Dédé, taulier formeur, pêcheur à la ligne et promeneur des bords de l'Indre. Un puits de silence et de timidité, une ombre muette qui a appris à ne jamais se faire remarquer, à se fondre dans le décor et à se réfugier dans l'alcool.
Alors, votre père était taulier, non pas gardien de la prison.
Et non pas communiste non plus, il vendait l'humanité. Mais il était compagnon du Tour de France. Et le bien décidé, c'est son nom de compagnon. Il s'appelait Berry, car il était Berrichon. Le bien décidé, c'est lui qui avait choisi ce nom. Et c'est le bien décidé, c'est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire.
Alice, la mère, surnommée la Lilette, un visage d'ange triste. Si lasse des grossesses à répétition, qu'elle essaiera d'avorter de Gérard en s'infligeant des coups d'aiguille à tricoter. « Et dire que j'ai failli te tuer », lui répétera-t-elle mille fois. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me réveiller en sursaut pour me toucher le crâne, pour savoir s'il ne reste pas quelques cicatrices, raconte Depardieu. Des cicatrices de cette enfance, qui ressemblent à des pages de Zola, Gérard Depardieu en garde plein. Mais pas celles que l'on croit, pas celles des coups qu'il n'a jamais reçus. Je n'ai jamais été ni jugé par mes parents, ni tenu, ni rien du tout. J'avais été aimé pour être libre, j'ai toujours été libre. La discipline, notion inconnue chez les Depardieu. Maison sans ordre, sans rituel, sans clé, sans horloge, sans verrou. La porte d'entrée donne directement sur l'aventure. Gérard ne fuguera jamais. Il ne fera que s'évader pour connaître le monde extérieur, fasciné par ces avions qu'il voit décoller d'Orly quand il rend visite ici à sa grand-mère, Dame Pipi à l'aéroport. « J'ai toujours voyagé depuis les chiottes d'Orly. Je voyais toutes les villes du monde défiler. Saïgon, Addis Abeba, Buenos Aires. Je me disais, un jour, j'irai là-bas, j'irai. » À 10 ans, il en paraît déjà 15. Il découche et personne ne lui dit rien. Commence à traîner dans les rues de Châteauroux. À 13 ans, il en fait 17. 1,75 m pour 70 kg. Il quitte l'école que, de toute façon, ses parents ne peuvent pas payer. Gérard a un blouson rouge, une gueule de petite frappe qui effraie les honnêtes gens et se débrouille. Des petits boulots, des petits larcins, des petites bagarres pour s'en sortir. Il a tout du voyou et malgré son jeune âge, il lui arrive de faire peur aux gendarmes. Il voyage sans billets, sans bagages, en se cachant dans des trains ou dans le car des supporters de la Berrichonne, l'équipe de foot de la ville, qui va jouer à Monaco. C'est la première fois qu'il voit la mer. C'était tellement beau, pendant des mois ça m'a porté, se souvient-il. L'été suivant, il sera embauché comme plagiste au Cap d'Antibes. Personne ne s'interrogera vraiment sur l'âge exact de cet adolescent qui est déjà un homme. L'enfance de l'acteur n'est qu'une suite ininterrompue d'allées et venues, d'évasions, d'escapades. Un tournis sans barrière, sans limite. Mais cette totale liberté n'est qu'une illusion. Gérard peut certes aller partout, mais en réalité, il ne va nulle part. Gérard voit plein de monde, mais en définitive ne rencontre personne. C'est la première fracture de l'acteur, cette conscience aiguë d'être marginal et condamné à le rester. Qui pourrait s'intéresser à ce voyou sans foi ni loi, sans scrupules ni morale, qui ne peut que finir en prison. L'éclaircie vient de la base aérienne américaine installée à la Martinerie. Plus de 10 000 hommes dans ce camp de l'OTAN. Les jeeps, les cigarettes blondes, les chewing-gums, le bowling, le rock'n'roll. C'est un air d'Amérique que respire soudain Gérard Depardieu. Avec sa carrure, son sourire désarmant, sa blondeur, il ressemble à tous les GI de la base. Il ne parle pas un mot d'anglais, mais semble déjà s'exprimer comme un petit gars du Middle West. Il ne va pas avoir de mal à se faufiler dans ce sanctuaire protégé. Pour la première fois, on va l'accepter sans lui demander des comptes, le considérer sans le juger. Le camp est l'endroit où il trafique des cartouches de cigarettes, des bouteilles de bourbon et des chemisettes pour les revendre à prix d'or dans les hôtels de Châteauroux. Avec les Américains, l'argent coule à flot. Il en donne à sa mère et claque tout le reste. Mais la Martinerie n'est pas seulement un terrain de magouilles et de marchés noirs. C'est l'endroit où il apprend à parler anglais. Où il voit Elvis Presley, en chair et en os, venu donner un concert où il découvre les films américains. C'est à peine croyable. Mais dans moins de 10 ans, le gamin perdu de Châteauroux qui mange du pop-corn en regardant Yul Brynner dans Les 7 mercenaires tiendra la vedette dans Les valseuses.
Cet extrait vous a plu? Alors retrouvez cette émission chaque samedi à 14h sur RTL ou abonnez-vous au podcast de Confidentiel.